On le constate tous autour de nous, cette campagne des européennes n'intéresse pas le monde ouvrier, et on le comprend. L'écrasante majorité des travailleurs a des soucis par-dessus la tête, parce que dans cette société, dès qu'on n'a pas d'argent, tout se transforme en cauchemar. Il y a ceux qui galèrent pour trouver un boulot, ceux qui en ont un, mais qui galèrent quand même pour finir les fins de mois, et ceux qui sont à la retraite et qui continuent de galérer. Et c'est bien pire quand on est malade, handicapé ou invalide. Alors les travailleurs ont appris depuis longtemps qu'ils n'avaient rien à attendre des pouvoirs publics, que ni Pôle emploi, ni je ne sais quel accompagnement social changera leur sort. Autant dire qu'ils n'attendent absolument rien du tout du Parlement européen. En plus, il y a dans cette campagne tout un aspect indécent. Entendre, par exemple, de la part de la candidate de Macron, Nathalie Loiseau, la promesse d'une Europe sociale ou même d'un SMIC européen, quand toute leur politique a consisté à démolir le droit des travailleurs pour faire cadeau sur cadeau aux plus riches. C'est vrai, il y a de quoi être dégoûté. Oui, cette campagne a de quoi écœurer. Et beaucoup de travailleurs ont envie d'envoyer balader tout ça. Les uns, sans doute, les plus nombreux, le feront en s'abstenant. D'autres le feront de la pire des façons possibles, en votant Rassemblement National ou en votant pour tous ceux qui se prétendent faussement anti-système. Alors, nous, à Lutte ouvrière, qu'est-ce qu'on vient faire dans ces élections? Pourquoi on présente une liste? Pourquoi voter et faire voter pour le camp des travailleurs? Eh bien parce que s'abstenir, c'est se taire. C'est laisser d'autres parler à sa place. C'est déserter le combat politique. Vous savez, quand on est exploité et quand on a la possibilité de protester clairement contre tout ce système, eh bien, il ne faut pas rater l'occasion. Il faut le faire. Il faut montrer qu'on existe en tant que travailleur, qu'on défend ses intérêts, qu'on est conscient des luttes qu'il y a à mener. Et il va falloir les mener, les luttes. Les élections, nous sommes les seuls à le dire, n'ont jamais changé le sort des travailleurs et ne changeront jamais leur sort. C'est vrai pour les présidentielles comme pour ces européennes. La condition d'exploiter ne dépend pas des gouvernements ni des lois qu'ils peuvent faire ou défaire. Le fait d'être pauvre ou riche, d'appartenir à la classe ouvrière ou à la bourgeoisie, n'est inscrit nulle part. Aucune loi n'impose l'exploitation ni ne force les travailleurs à se faire voler le fruit de leur labeur. Mais quand on ne possède pas de capitaux, on n'a pas le choix. La seule façon de vivre dans cette société pourrie, c'est de vendre sa force de travail pour enrichir celui qui détient les capitaux. Mais c'est aussi de se défendre dans cette société de classe. Alors oui, les travailleurs ne sauveront leur peau qu'en se battant pied à pied contre le grand patronat, avec ses armes de classe, les manifestations, les grèves, les occupations d'usines, les révoltes ouvrières. Mais il ne suffit pas d'en appeler aux grèves ou à la révolte générale. Une fois que la révolte est là, ce n'est que le début du combat. Il faut savoir où aller, quels objectifs poursuivre, contre qui se battre et comment se battre. Oui, quand les travailleurs sont en lutte, ils ont aussi besoin d'une politique. On l'a vu avec les gilets jaunes. Il peut y avoir de la contestation sociale, de la détermination. Les travailleurs peuvent même y jouer un rôle prépondérant et sans pour autant avoir une vision claire du combat à mener. Les élections ne peuvent pas être un but en soi pour les travailleurs, mais elles offrent la possibilité de se regrouper derrière un programme et une politique. Contrairement à ce que l'on a entendu dans le mouvement des Gilets jaunes, les travailleurs doivent avoir leur politique. Ils doivent avoir leur parti dans lequel placer leur confiance. Il faut qu'ils aient conscience d'appartenir à un camp politique opposé à celui de la bourgeoisie et à tous les béni-oui-oui du capitalisme. Cette politique ne peut être une politique électorale. Elle doit être une politique de combat et un programme pour les luttes, c'est-à-dire des mesures susceptibles d'être imposées sous la pression collective des travailleurs. Nous sommes minoritaires à exprimer ça dans les élections, et nous le resterons tant que les travailleurs ne renoueront pas avec les luttes puissantes et tant que leur force sociale ne sera pas palpable pour le plus grand nombre. Mais si à travers cette élection, nous parvenons à populariser dans les consciences ouvrières les objectifs de lutte capable d'inverser le rapport de force avec le grand patronat, si demain plus de travailleurs sont conscients du combat à mener, eh bien camarades, nous aurons réussi notre campagne. Dans cette campagne pour les élections européennes, les politiciens de la bourgeoisie voudraient nous faire croire que deux camps s'affrontent. D'un côté, les souverainistes de droite comme de gauche, pour qui l'Europe est la cause de tous nos malheurs. Elle représenterait la fin de ce qu'ils appellent l'indépendance nationale. Et le chômage, la pauvreté qui grandit dans la classe ouvrière, le recul des droits des travailleurs seraient autant de fléaux dus au diktat de Bruxelles. Pour les autres, du côté de Macron et de ce qu'il reste du PS ou de la droite classique, la construction européenne serait au contraire un monde merveilleux de paix, de fraternité et d'unité entre les peuples. Ce serait l'Europe qui protège, comme dit Macron. Les uns comme les autres mentent consciemment. L'Europe n'est pas plus responsable des maux qui frappent le monde du travail qu'elle n'est une protection pour celui-ci. Elle n'est ni plus ni moins démocratique que l'État français, ni plus ni moins protectrice. Parce que la cause des fléaux qui frappent la classe ouvrière, ce n'est pas l'Europe, c'est le capitalisme. L'Union européenne, c'est simplement une organisation qui se superpose aux États capitalistes pour organiser la domination de la grande bourgeoisie en Europe. Une sorte d'association de malfaiteurs à l'échelle d'une partie du continent. Cette union construite par la bourgeoisie est une Europe rabougrie, qui au bout de 60 ans ne compte que 28 pays sur les 45 du continent. C'est une Union européenne qui rejette toujours sa partie orientale, la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie, une bonne partie des Balkans, sans parler de la Turquie. Et c'est en plus une Europe qui est en train de se déliter, comme on le voit avec le Brexit. Il ne faut pas en être surpris. La construction européenne n'a été qu'une longue histoire de marchandage sordide entre bourgeoisie européenne pour disposer tout à la fois d'un marché élargi tout en continuant de bénéficier de tous les avantages d'un État national. Le résultat de ces rivalités et de ces compromis est l'Union européenne que l'on connaît. Un mariage de raison où chacun fait chambre à part, défend son pré carré, ne met surtout pas son compte bancaire en commun, et où n'importe quelle scène de ménage peut conduire au divorce. Les partisans de l'Union européenne nous expliquent qu'elle a garanti la paix sur le continent. Et ça, c'est même pas vrai. L'Europe elle-même a été déchirée par des guerres sanglantes, celle de l'ex-Yougoslavie au début des années 1990 et celle en Ukraine depuis 2014. Les dirigeants européens se vantent d'être des forces de paix parce qu'au cours des dernières décennies, ils n'ont pas fait s'entretuer leur propre peuple comme ils l'ont fait pendant les deux guerres mondiales. Mais ils ont fait s'entretuer d'autres peuples dans le tiers-monde. Ils envoient leurs avions de combat aux quatre coins du monde. Ils font sillonner les mers par leurs sous-marins nucléaires, les airs par leurs drones de combat, et quand leurs intérêts sont en jeu, ils mettent des pays entiers à feu et à sang et soutiennent des milices plus barbares les unes que les autres. Du Rwanda à la Syrie, en passant par l'Irak ou la Libye, des millions de femmes et d'hommes ont péri sous les coups de machette ou sous les bombes. Des pays entiers ont été ravagés. Alors nous affirmons clairement que tant que domine une poignée de capitalistes et tant que les rapports entre les peuples sont des relations de domination, de concurrence, de pillage, d'exploitation, il ne peut pas y avoir ni de paix, ni d'Europe unie et fraternelle. Détestable et qu'ils ont transformé l'Europe en forteresse. Et aujourd'hui, quand Macron propose de relancer l'Union européenne, c'est en révisant Schengen pour rendre cette forteresse imprenable en multipliant les gardes-frontières, les barbelés, les murs. Les mêmes qui avaient applaudi à la chute du mur de Berlin sont en train de reconstruire de nouveaux rideaux de fer. Ils ont fait de la Méditerranée un cimetière marin. Et cette politique est non seulement le fait des nationalistes, comme Salvini en Italie, mais aussi ceux qui, comme Macron, se prétendent progressistes. Eh bien, tous ces gens-là veulent faire tourner la roue de l'histoire à l'envers. Nombre de politiciens aiment à rappeler les racines chrétiennes de l'Europe. Mais sans remonter encore plus loin, elles sont aussi gréco-romaines, c'est-à-dire une civilisation qui s'est épanouie autant au sud et à l'est qu'au nord de la Méditerranée. Et les cathédrales d'Europe, comme Notre-Dame de Paris, n'auraient pas pu être bâties sans l'apport des architectes arabes. Quant au capitalisme européen, il s'est développé à partir du commerce triangulaire et de la traite esclavagiste dès 17e et 18e siècles. Ils ont été à la base de la révolution industrielle. Puis il y a eu la colonisation qui a lié l'Europe et en particulier la France au Maghreb. Parce que oui, quand les colonisateurs français sont allés piller le Maghreb et l'Afrique, drapeau bleu, blanc, rouge en tête, ils en ont créé des liens. Dans l'oppression, dans le sang, dans l'exploitation, que ce soit en créant des troupes d'indigènes dans les deux guerres mondiales, que ce soit en recrutant pour les mines de Lorraine, les usines automobiles ou dans le bâtiment. Ces liens, ils sont là, aujourd'hui. Des millions de femmes et d'hommes vivent avec de la famille de chaque côté de la Méditerranée. Aujourd'hui, les dirigeants européens sont tous prêts à transformer la Méditerranée en un fossé infranchissable. Mais quoi qu'ils fassent, quels que soient les moyens techniques ou policiers qu'ils mettent en œuvre, ils n'y arriveront jamais. Car la lutte pour la vie sera toujours plus forte. Mais l'idée même d'une Europe forteresse est révoltante et écœurante. Il y a quand même une chose sur laquelle les capitalistes ont unifié l'Europe, mais ils n'ont pas eu besoin de l'Union européenne pour le faire. C'est la situation sociale dramatique des classes exploitées des pays qui la composent. Car il y a une chose que tous les travailleurs d'Europe partagent d'une façon ou d'une autre, c'est le chômage et l'exploitation. Certaines régions d'Europe sont littéralement dévastées par le chômage, par les fermetures d'entreprises en cascade. Même d'après les statistiques officielles, qui atténuent la réalité au moins qu'elles la révèlent, dans plusieurs régions d'Espagne, d'Italie, de Grèce, de Grande-Bretagne, le chômage approche ou dépasse les 30%. Et si les statistiques officielles indiquent des taux de chômage très inférieurs dans certains pays de l'Europe de l'Est, il n'y a aucun miracle économique là-dedans. Il n'y a que la rapacité du patronat qui profite des salaires de famine en vigueur dans ces pays pour y rouvrir des usines. En République tchèque, le salaire minimum est de 518 euros brut par mois. En Hongrie, 464 euros. En Bulgarie, 286 euros par mois. Ce n'est pas pour rien que des dizaines de milliers de travailleurs bulgares ou roumains fuient leur pays pour venir tenter leur chance en Europe de l'Ouest. C'est parce que leur pays constitue le tiers-monde de l'Europe, où même en travaillant, on ne peut pas vivre. Et même politiquement, l'Union européenne est une chimère. Quelle égalité peut-il exister dans le monde capitaliste entre des puissances impérialistes comme la France et l'Allemagne d'un côté, et de l'autre, des pays qui n'ont jamais été autre chose que des vassaux de puissances plus riches et militairement plus puissantes qu'elle. Au sein même de l'Union européenne du XXIe siècle, les mêmes rapports de domination impérialiste subsistent exactement comme ils ont subsisté au XIXe et au XXe siècle. Avez-vous déjà vu beaucoup d'usines roumaines ou de banques bulgares s'installer en France ? Combien de travailleurs, ici, travaillent pour un capitaliste hongrois ? Pas beaucoup, c'est peu de le dire. Par contre, ils sont des millions de travailleurs roumains, bulgares, polonais, hongrois, à suer tous les jours du profit dans les usines françaises ou allemandes installées en Europe de l'Est. Et cette domination économique se traduit directement par la domination politique qui, forcément, va avec. En Europe, tous les États sont égaux, paraît-il. Mais il y en a qui sont quand même plus égaux que d'autres. Il n'y a en fait qu'une poignée d'États, les anciennes grandes puissances coloniales, qui font l'appui et le beau temps au sein de la Commission européenne. Il y a d'ailleurs vraiment beaucoup d'indécence de la part des souverainistes à la Mélenchon lorsqu'ils osent affirmer que la France, comme ils disent, est opprimée, vassalisée par l'Europe. Parce que, qu'ils le veuillent ou non, si certains États peuvent en effet se plaindre d'être traités comme quantité négligeable par l'Union européenne, la France n'en fait certainement pas partie. L'État français, avec sa puissance économique, financière et militaire, fait partie au contraire de ceux qui tiennent le fouet en Europe, ceux qui dictent les règles et les imposent. C'est la société générale, bien française, qui a contribué à ruiner la Grèce, C'est pas l'inverse. Et n'en déplaise à ceux qui, dans le but unique de flatter les préjugés nationalistes, prétendent que la France est vassalisée par la Banque Centrale Européenne, la BCE. Il faut rappeler qu'à eux quatre, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Italie possèdent 58% du capital de la Banque Centrale Européenne, quand la Slovaquie, par exemple, en contrôle 0,77%. À votre avis, qui prend les décisions? Qui est le seigneur et qui est le vassal? Alors, si nous ne sommes pas de ceux qui repeignent l'Europe en rose pour vendre du rêve aux travailleurs, jamais, jamais nous ne défendrons les grossièretés nationalistes de ceux qui prétendent que l'Europe est une catastrophe, qui prétendent que les frontières nationales sont une protection pour les exploités et qui pleurnichent sur le fait qu'avec l'euro, la France aurait perdu son indépendance monétaire au profit de la Banque Centrale Européenne. Rappelons-leur qu'avant, au temps béni du franc, c'était la Banque de France qui fixait la politique monétaire et que pendant très longtemps, le conseil d'administration de la Banque de France a été directement composé des 200 plus gros capitalistes du pays. Alors, si leur indépendance nationale signifie la soumission aux décisions des 200 familles les plus riches de France, eh bien, nous la laissons bien volontiers à ceux à qui cela plaît. Mais nous, à Lutte ouvrière, nous continuerons de revendiquer fièrement notre internationalisme, à dire haut et fort que nous pensons que notre principal ennemi est dans notre propre pays et qu'il a pour nom la grande bourgeoisie française. Totalité des listes en présence se réclament du protectionnisme. Les uns le veulent solidaire, les autres intelligent, ou d'autres encore le veulent vert. Les uns le veulent aux frontières nationales, les autres aux frontières européennes. Mais l'idée est la même. Ils veulent taxer les produits aux frontières. Ils veulent les rendre plus chers pour aider les entreprises françaises à être plus compétitives pour soi-disant créer des emplois. Quelle que soit la couleur de la liste, c'est toujours la même politique. Taxer les consommateurs, taxer les petites gens, taxer tous ceux qui précisément sont forcés d'aller au moins cher parce qu'ils sont mal payés ou parce qu'ils ont une petite retraite. Et tout ça pourquoi? Pour assurer des marchés protégés aux capitalistes, pour aider encore et encore les capitalistes. Et qu'est-ce que les capitalistes feront de ces marchés protégés? Des havres pour l'emploi et pour les travailleurs? Des marchés où les consommateurs pourront trouver de quoi se satisfaire avec des produits sains et de qualité? Bien sûr que non. Des marchés protégés, il y en a déjà. Prenez la grande distribution, par exemple. Voilà une activité locale. Les grandes surfaces sont-elles moins rapaces? Sont-elles soucieuses des conditions de travail de ses salariés? Versent-elles de meilleurs salaires? Embauchent-elles? Rémunèrent-elles les petits producteurs au juste prix? Bien sûr que non. La politique protectionniste est une politique pour la bourgeoisie, pour ses affaires. C'est une politique qui nous fait dépendre encore et toujours de ses quatre volontés. Et comme toujours, il n'y a que des coups à attendre de ces gens-là. Renforcer des frontières n'obligera aucun groupe industriel et financier à embaucher, à augmenter les salaires ou à respecter les conditions de travail et de vie des salariés. Les travailleurs ne se protégeront pas s'ils ne savent pas contre qui ils doivent se battre. Les travailleurs ont à se protéger de leurs exploiteurs. Ils ont à se protéger de la rapacité des grands groupes. Ils ont à se protéger d'un système basé sur l'irresponsabilité et la loi du profit. Nous les entendons chaque jour, les empoisonneurs de la conscience ouvrière, qui répète que nous devons nous méfier des travailleurs de Moldavie ou de Roumanie, que notre ennemi, c'est le travailleur détaché de Pologne ou de Bulgarie, ce qui, comme Jean-Luc Mélenchon lui-même, lors d'un discours en juillet 2016, prétendent que, je le cite, « chaque fois qu'arrive un travailleur détaché, il vole le pain aux travailleurs qui se trouvent sur place ». Eh bien, camarades, face à ces insanités, nous ne cesserons, nous, jamais, de chercher à répandre dans la conscience ouvrière qu'aucun travailleur que la misère oblige à changer de région pour chercher du travail ne peut être traité de voleur. Car les seuls voleurs, ce sont les parasites capitalistes qui se nourrissent et s'enrichissent du travail des autres. Automobile, je travaille dans une usine où coexistent des dizaines de nationalités différentes. À PSA, à Poissy, il y a bien plus de nationalités qu'il n'y a de pays dans toute l'Union européenne. Et au-delà des différences de culture et de langue, nous connaissons tous le même sort quand la sonnerie retentit à 5h20 du matin et que la chaîne commence à avancer. Tous. Le même épuisement lorsque la journée se termine et qu'un patron nous a obligés à passer 7 heures, et parfois plus, à refaire 1000 fois le même geste. Tous, les mêmes douleurs dans les articulations et dans les muscles, parce que les cadences sont toujours plus fortes, toujours plus dures. Et ce que les ouvriers partagent au sein de cette usine, des milliers d'autres le partagent d'un bout à l'autre du continent. Parce que PSA, pour rationaliser sa production, a un seul et unique modèle d'usine de montage, que ce soit à Poissy, à Rennes, à Sochaux, ou à Tarnava en Slovaquie, ou Kolín en République tchèque. Même plan. Même organisation, même machine, n'importe quel ouvrier de n'importe laquelle de ces usines pourrait être transporté dans une autre pour y faire, les yeux fermés, le même travail sans changer un geste. Oui, dans les usines, les chantiers, les bureaux de toute l'Europe, il n'y a qu'une seule classe ouvrière. Une masse immense de travailleurs qui produisent tout pour la même économie, qui sont exploités par les mêmes capitalistes, qui connaissent tous la même peur du chômage et les mêmes problèmes de fin de mois difficiles ou impossibles. Et dans cette Europe, comme partout ailleurs, les seuls étrangers, ce sont les étrangers au monde du travail, c'est-à-dire les exploiteurs, les capitalistes. Mais pour les grands patrons, il n'y a même pas besoin d'aller chercher des travailleurs à l'autre bout de l'Europe pour leur faire accepter, par mille moyens, une exploitation toujours accrue. Y compris ici, en France, la pression du chômage, la peur de perdre son emploi, de n'avoir plus les moyens de nourrir les siens, suffit à faire accepter aux travailleurs des salaires en baisse, des heures supplémentaires non payées, une dégradation permanente de leurs conditions de travail et de vie. Le chômage est bien un cancer pour la société. Un cancer parce qu'il condamne à la mort sociale des millions de travailleurs. Et un cancer parce qu'il s'étend à tout l'organisme social en exerçant une pression permanente sur tous ceux qui travaillent. Et parce que la misère, la démoralisation, la désespérance qu'il provoque conduisent immanquablement à une montée de l'individualisme, du chacun pour soi, de la violence, de la délinquance qui pourrit la vie des quartiers populaires. Les politiciens bourgeois s'accordent tous à prétendre que vaincre le chômage serait, sinon impossible, du moins si difficile que cela prendrait des années, voire des décennies. Et les porte-paroles du MEDEF, eux, n'hésitent plus même à dire que, si l'on veut en finir avec le chômage de masse, il n'y a qu'à se montrer aussi compétitif que d'autres pays. Autrement dit, que si le SMIC était, ici en France, de 286 euros brut par mois, comme en Bulgarie, les patrons consentiraient, peut-être, à embaucher. Eh bien nous refusons ce choix. Et nous affirmons que oui, il serait possible non seulement que chacun ait un emploi, mais aussi un salaire de 1800 euros net qui permette de vivre dignement. Les moyens existent pour ça. Il faudra aller les chercher de force, là où ils sont, dans les coffres-forts pleins à craquer de la grande bourgeoisie. Affirmer cela, c'est la raison d'être de notre candidature à ces élections, comme à toutes les élections. Face à tous les mensonges, nous voulons défendre un programme de lutte, des mesures d'urgence que les travailleurs devront imposer par leur mobilisation. Car ce que les politiciens bourgeois ne disent jamais, c'est qu'en réalité, la résorption complète du chômage, c'est un problème simple. Un problème qui pourrait être réglé presque du jour au lendemain, avec deux mesures qui iraient dans le sens de l'intérêt général de la collectivité. Imposer de force l'interdiction des licenciements et la répartition du travail entre tous sans perte de salaire. C'est-à-dire non seulement empêcher les patrons de licencier, mais les obliger à embaucher les chômeurs. Ça coûterait de l'argent à la bourgeoisie ? Oui, certainement. Et alors ? La résorption du chômage ferait économiser des milliards à la collectivité. Elle permettrait à tous de vivre mieux. Elle résoudrait bien des fléaux sociaux. Et c'est cela qui devrait compter si le monde ne marchait pas sur la tête. Mais sous le capitalisme, parce que c'est le profit qui gouverne le monde, il est considéré comme normal que toute la société se dégrade uniquement pour que la grande bourgeoisie continue de gagner de l'argent. Eh bien, l'un de nos objectifs dans cette campagne, c'est justement de dénoncer ce système, de dire, et nous sommes les seuls à le dire, que le problème n'est pas la répartition des richesses, ce n'est pas de prendre un peu aux uns pour donner aux autres. Le problème central, capital, c'est de remettre en cause la domination politique, économique et sociale du grand capital sur l'ensemble de la société. Résoudre le problème du chômage et des ravages qu'il fait parmi les nôtres, il faudra s'attaquer au profit de la grande bourgeoisie qui croule littéralement sous le fric. L'incendie de la cathédrale Notre-Dame est évidemment un désastre pour tous ceux qui sont attachés aux merveilles que l'ingéniosité et les mains des travailleurs ont su créer au cours des siècles. C'est vrai. Mais cette catastrophe culturelle est-elle plus grave que le fait que près d'un million de personnes mangent au Resto du Cœur ? Est-elle plus grave que la mort de 566 SDF dans la rue l'an dernier, que les millions de gens qui ne se soignent plus, parfois ne se chauffent même plus l'hiver par le manque d'argent, est-elle plus grave que les usines qui ferment, que les travailleurs jetés à la rue sans perspective de retrouver jamais un emploi? Eh bien, pour les grandes familles bourgeoises, il semble que oui, puisque ces gens qui nous expliquent à longueur d'année que remplacer dans leurs usines un carreau cassé va mettre en péril la compétitivité de l'entreprise, ont su trouver 1 milliard d'euros pour Notre-Dame en un claquement de doigts. Cette histoire a eu au moins un avantage. C'est que pour une fois, on les a vus sortir du bois, ces grandes familles bourgeoises, d'habitude si discrètes. Celles dont personne ne parle, à part nous, lutte ouvrière. Et on nous demande souvent, mais qu'est-ce que c'est la grande bourgeoisie ? Eh bien, ce sont eux. Ce sont ces gens qui, en 24 heures, ont sorti de leur poche 100, 200 millions d'euros. Ce sont les Arnaud, Pinault, Bolloré, Bettencourt, 1 milliard d'euros en 48 heures. 1 milliard d'euros, pour vous donner un ordre d'idée, c'est la somme nécessaire pour payer, pendant un an, un salaire de 1 800 euros par mois, cotisation comprise, à 30 000 travailleurs. Alors oui, l'argent nécessaire pour vaincre le chômage, il est là. C'est bien à cette grande bourgeoisie de payer pour résorber le chômage. C'est à elle d'assurer des salaires corrects, c'est-à-dire au moins 1 800 euros net par mois, le minimum nécessaire pour vivre. Et ces salaires, pensions et allocations, une fois massivement augmentés, devront nécessairement être indexés sur la hausse réelle des prix. Parce que nous n'avons aucune raison d'accepter que les hausses de salaires soient dévorées ensuite par l'inflation. C'est à la bourgeoisie de payer parce qu'elle en a mille fois les moyens. Mais c'est aux capitalistes de payer pour une raison encore plus évidente. C'est qu'ils en sont à 100% responsables. Ce sont eux qui dirigent la société. Ce sont eux qui prennent les décisions économiques. Ce sont eux qui sont aux commandes. Et nous le répètent assez tous ces bourgeois qui ne cessent de rabâcher que leurs revenus faramineux se justifie par les risques qu'ils prennent à diriger la société. Alors, puisque ce sont eux qui dirigent, eh bien, nous affirmons qu'ils doivent payer les dégâts provoqués par leurs agissements. La première étape pour commencer à faire payer la bourgeoisie est de contrôler ses comptes, ses agissements, ses décisions et toutes ses affaires. Un tel contrôle est indispensable, ne serait-ce que pour rendre effectif ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire l'indexation des salaires et des pensions sur la hausse réelle des prix. Mais la lutte contre le chômage supposerait aussi de contrôler ce que font les capitalistes et pourquoi ils le font. Lorsque l'on apprend, par exemple, qu'une entreprise multimilliardaire comme Auchan, avec à sa tête la 5e fortune du pays, la famille Muliez et ses 38 milliards d'euros, vient d'annoncer la vente de 21 magasins, menaçant l'emploi de plus de 800 salariés, on mesure la nécessité d'un contrôle des travailleurs sur les décisions de ces gens-là. Parce que seul un tel contrôle permettrait de lever le voile sur les vraies décisions de l'Europe, sur les vraies raisons de leurs décisions, permettrait de révéler combien d'argent il y a et où il se cache, permettrait de montrer combien d'argent les Muliez gagnent sur le dos de chaque caissière, chaque manutentionnaire qu'ils exploitent, chaque petit fournisseur qu'ils grugent. Cette nécessité du contrôle ouvrier, nous la défendons pendant cette campagne comme nous le faisons depuis des années et comme le mouvement communiste révolutionnaire le fait depuis toujours. Si cette idée est fondamentale, c'est parce qu'elle repose sur le fait que nous, les travailleurs, nous sommes la source de toute la production de richesses. Nous sommes ceux qui faisons tout fonctionner. Autrement dit, nous sommes les seuls qui pouvons collectivement exercer ce contrôle parce que nous occupons déjà tous les postes stratégiques de la société capitaliste. L'élaboration des marchandises, leur production, leur transport, leur distribution, c'est nous qui les réalisons. La comptabilité des entreprises, c'est nous qui la faisons. La circulation des richesses, c'est nous qui l'assurons. Les réseaux qui permettent la production, les échanges, même les transferts de capitaux, ils sont déjà entre nos mains. Non parce que nous les possédons, mais parce que nous les construisons, nous les contrôlons, nous les faisons fonctionner, nous les entretenons. En mai 68, une affiche célèbre disait déjà « Le patron a besoin de toi, tu n'as pas besoin de lui ». C'est exactement la même idée. Il y a des anciens de 68. Et c'est une idée qui ne date pas d'hier. Elle date des débuts même du mouvement ouvrier organisé. C'est la conscience qu'il faudra retrouver de la place centrale qu'occupe le prolétariat dans la production et l'organisation capitaliste. L'idée que, quand la classe ouvrière reprendra conscience de sa force et décidera de s'en servir, elle sera capable de doter toute capacité d'agir à la grande bourgeoisie, pourtant si puissante aujourd'hui. La bourgeoisie, ses hommes politiques, son appareil d'État domine toute la société. Mais c'est uniquement parce qu'il y a des millions de femmes et d'hommes payés une misère qui le permettent. Mais un jour viendra où éclateront des grèves d'une telle ampleur que non seulement les ouvriers ne voudront plus faire tourner la pompe à profit dans les usines, mais où les bourgeois ne trouveront plus un chauffeur routier ou un cheminot pour transporter leurs richesses, plus un opérateur de réseau pour faire passer leurs communications téléphoniques, plus une secrétaire pour taper leur courrier, plus un travailleur pour alimenter leur limousine et leur jet privé en carburant, plus un employé pour virer leurs capitaux d'un compte à un autre, même plus un domestique pour leur préparer à manger. C'est à ce moment-là, en l'expérimentant, que le prolétariat mesurera sa force et comprendra que s'il est déjà capable de faire tourner toute la société, il est aussi, armé de sa conscience, capable de la diriger. Face à la bourgeoisie, les travailleurs n'ont pas seulement à défendre leurs intérêts matériels vitaux les plus essentiels. La tâche historique qui leur incombe, c'est de renverser le pouvoir de la bourgeoisie qui nous mène à la catastrophe dans tous les domaines, économiques, sociaux, écologiques. Pour enrayer la catastrophe, il faut en finir avec cette classe sociale qui domine toute la société, en finir avec la loi du profit, avec cette concurrence infernale et ce marché, en finir avec l'exploitation de l'homme par l'homme. Dans cette élection, nous sommes les seuls à défendre cette perspective de renverser l'ordre social capitaliste. Il arrive aux uns et aux autres d'évoquer pourtant la nécessité de repenser l'économie ou de remettre à plat toute l'organisation économique. Ils le font régulièrement quand ils parlent par exemple de la transition écologique. Dans ses envolées lyriques, un Nicolas Hulot peut même affirmer qu'il faut mettre fin au système dominant. Mais cela ne signifie jamais poser la question centrale, la question essentielle. Allons-nous, oui ou non, laisser les manettes de l'économie dans les mains d'une minorité capitaliste qui ne jure que par ses profits, ses dividendes et ses cours boursiers? Et au bout du compte, leur politique consiste toujours à concevoir des plans d'aide aux capitalistes, des plans pour les inciter à s'orienter dans de nouvelles filières. De fait, ils proposent tous de faire dépendre l'avenir de l'humanité et de la planète de ces mêmes capitalistes qui tuent la planète à petit feu depuis qu'ils dominent toute vie économique et sociale. Car qui exploitent depuis deux siècles les gisements de charbon et de pétrole en ravageant des régions entières, en polluant les sols, les fleuves, les nappes phréatiques et en empoisonnant les populations riveraines. Qui a transformé en désert des millions de kilomètres carrés de terres agricoles en les surexploitant et en les chargeant de produits chimiques? Qui envoie en Afrique ou en Asie ces déchets industriels, cancérigènes, radioactifs ou en plastique non recyclables pour économiser le coût du retraitement? La réponse est toujours la même. Ce sont les capitalistes. Et il faudrait confier la transition écologique à ces irresponsables qui empoisonnent et réchauffent la planète, à ces irresponsables dont le mode de production est en train de provoquer une nouvelle extinction des espèces vivantes. Eh bien, nous, contrairement à tous ces politiciens, nous refuserons toujours de confier notre avenir et celui de la planète à la bourgeoisie. Mais le pire dans la domination de la bourgeoisie sur la société n'est même pas dans l'accaparement des richesses produites par les travailleurs, mais dans le gaspillage des immenses possibilités créées par l'humanité. Tous les politiciens accordent à la bourgeoisie la qualité d'investisseur, parce qu'elle est assise sur une montagne d'or. C'est à ce titre que les actionnaires empochent les bénéfices et monopolisent le pouvoir dans les grands groupes. Mais ils ne méritent pas cet honneur, parce qu'à moins de faire de profits rapides et assurés, ils ne veulent pas investir. Leurs investissements, ce sont le plus souvent des rachats d'entreprises déjà existantes. Bayer, par exemple, a mis 54 milliards de dollars sur la table pour racheter Monsanto sans que la moindre richesse nouvelle ne soit créée. Prenez la gestion des autoroutes ou de l'aéroport de Paris. Ah ça oui, ça les intéresse. Car cet investissement-là consiste à racheter à bon prix des infrastructures construites avec l'argent public pour les transformer en tiroirs-caisses. Mais investir pour résoudre la crise du logement ou produire pour répondre aux besoins essentiels, ça, c'est pas leur problème. L'État leur livre pourtant tout sur un plateau. Les salariés, les chercheurs, les infrastructures, ils sont arrosés d'argent public, le CICE, le crédit d'impôt recherche, et quand ils font de mauvaises affaires, ils peuvent toujours se compter sur l'aide de l'État. Mais encore une fois, c'est pas leur problème. D'ailleurs, qu'est-ce qui les pousserait à investir dans la production utile quand la finance et la spéculation rapportent 100 fois, 1000 fois plus? Alors, si on compte sur la bourgeoisie pour investir, créer des emplois, faire la transition écologique, ça prendra des siècles, comme pour l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Et ça sera trop tard. Parce que ce qui nous attend, c'est une nouvelle crise financière. Tous les experts financiers sont unanimes, nous courons tout droit vers un nouveau krach boursier. La charge explosive est encore plus grande qu'en 2008 et nul doute que les ravages seront plus dévastateurs. Les travailleurs, quant à eux, sont les seuls à investir réellement dans les entreprises. Eux y investissent le meilleur d'eux-mêmes. Ils consacrent à l'entreprise l'essentiel de leur temps, de leurs compétences et de leur énergie. Ils sont forcés d'adapter leurs projets personnels et leur vie de famille en fonction de leur travail. Ils investissent leur santé. Et tout ça pourquoi ? Pour enrichir des générations d'actionnaires, pour être traités comme des pions, ballottés d'actionnaire en actionnaire, pour ne jamais avoir à dire leurs mots, sauf à risquer d'être mis à la porte du jour au lendemain. Eh bien, tôt ou tard, les travailleurs ne l'accepteront plus. Ils prendront eux-mêmes les choses en main et prouveront que s'ils sont capables de diriger, qu'ils sont capables de diriger mille fois mieux l'économie que cette classe aveuglée par le profit. Face à cette catastrophe économique qui se prépare, ce qu'il faut mettre à l'ordre du jour, c'est le renversement de cette classe capitaliste par les travailleurs. Il n'y a pas d'autre choix. La seule issue pour l'humanité est de renverser cette économie basée sur la recherche individuelle de profit et de la remplacer par une économie visant la satisfaction des besoins de tous. C'est d'en finir avec les lois aveugles de la concurrence et du marché, et d'organiser, de planifier l'activité économique, de répartir le travail et les capitaux de façon à gérer les ressources rationnellement, d'éviter les gaspillages et la pollution. Pour y parvenir, il faut exproprier la bourgeoisie des grands moyens de production et transformer les grandes banques, les groupes de l'industrie, de l'énergie, du bâtiment, des transports, les multinationales de la distribution et du numérique en propriété collective. Entre les mains de la bourgeoisie, tout se transforme en instrument d'oppression. La robotisation, la numérisation et l'intelligence artificielle sont autant d'outils utilisés contre l'emploi et contre les travailleurs. Autant d'outils pour resserrer leur emprise sur la population. Mais pensez à tout ce qu'il serait possible de faire si les travailleurs contrôlaient ces moyens fantastiques pour en finir avec le travail pénible, pour diminuer considérablement le temps de travail. Et il en va de même avec les liens économiques, sociaux et humains qui ont été tissés au travers de cette mondialisation. Ce sont des liens précieux. C'est la base sur laquelle un système plus performant que jamais s'est développé. Il faut que les travailleurs les reprennent à leur compte, de sorte qu'ils servent à l'humanité tout entière. Oui, un tas de choses, aujourd'hui inimaginables, deviendraient possibles et changeraient réellement la face du monde. On pourrait à nouveau mener de grands projets. Au pouvoir dans un pays riche comme la France, les travailleurs pourraient s'adresser aux exploités du reste du monde et leur proposer bien des choses. Ils pourraient payer la dette de sang, de massacres et de pillages perpétrés par notre bourgeoisie impérialiste, ne serait-ce qu'en mettant à la disposition des travailleurs de ces pays la possibilité d'utiliser les moyens productifs qui sont ici. Parce que nous sommes communistes et donc internationalistes, nous affirmons que c'est à l'échelle du monde entier qu'il faut transformer la société. Pour nous, tous les pays du monde sont constitués d'une seule et même classe ouvrière qui a partout les mêmes intérêts, partout la même place centrale au cœur de l'économie. La force collective des travailleurs est immense. Elle est capable de changer la société de fond en comble. Mais pour y parvenir, elle doit retrouver une conscience de classe. Or, cette conscience, elle n'est pas naturelle, elle n'est pas innée. Nous sommes dans une période où, même s'il y a de la contestation sociale, le fatalisme continue de dominer les rangs des exploités. La conscience qu'il y a de l'argent dans la société existe bel et bien. Lors de la surenchère des grandes fortunes pour Notre-Dame de Paris, tout le monde l'a vu. Mais ce n'est pas pour autant que les travailleurs se sentent en mesure de contester à Pinault ou à Arnault le droit de s'accaparer ses richesses et de dominer toute la société. Ce que vit l'écrasante majorité des classes populaires, c'est la misère, les bas salaires, le chômage et la précarité. Ils doivent se battre pour tout, pour un emploi, un logement, une place en crèche, un rendez-vous chez un spécialiste, une place dans le bus ou dans le tram. Alors oui, cette réalité de la crise pousse les plus pauvres à se replier sur soi, et tous les démagogues s'en servent pour distiller leur poison. Parmi tous les démagogues xénophobes qui se bousculent au portillon dans ces élections, Bardella, Le Pen et le Rassemblement National risquent de rafler la mise. Une partie des nôtres a le sentiment que voter pour le parti de Le Pen leur permettra de se démarquer et de dénoncer tout le système. C'est une grossière erreur. Voter Rassemblement National, c'est remettre un jeton dans la machine. Parce que les politiciens du RN sont des politiciens comme les autres. Ils louchent tous vers la mangeoire. Ils sont rigoureusement comme les autres avec leur discours sur la compétitivité et la grandeur française. Exactement comme Macron, cela leur écorcherait la bouche de dénoncer les profits, de dénoncer l'exploitation et les responsabilités de la classe capitaliste. Ils préfèrent s'en prendre à des travailleurs parce qu'ils sont migrants ou étrangers. Ils défendent l'ordre bourgeois comme tous les autres politiciens. Mais le problème, c'est qu'en plus, ils distillent dans la classe ouvrière le poison de la division. Et cela sert au grand patronat qui cherche toutes les occasions possibles pour opposer les travailleurs les uns aux autres et les affaiblir. Alors non, voter extrême droite, ce n'est pas se démarquer du système. C'est au contraire le conforter, et encore une fois, c'est favoriser ceux qui haïssent les ouvriers parce que la classe ouvrière est une classe sociale qui s'est constituée avec l'immigration. Les politiciens du RN font partie de nos pires ennemis. Ils sont à mettre dans le même sac que Macron et que tous ces politiciens qui veulent nous faire payer les pots cassés de leur système et nous prêchent la résignation. Alors, il ne faut pas rater une occasion pour le dire et pour les dénoncer. Au-delà de Le Pen et du Rassemblement National, une multitude d'autres politiciens font du Le Pen. Et il faut avoir une sacrée boussole politique, une sacrée combativité pour rejeter le discours de résignation consistant à dire en permanence qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Parce que la question n'est pas d'accueillir toute la misère du monde, c'est de la combattre. Mais qui rappelle les travailleurs à ce combat-là? Quel parti pour leur redonner confiance dans leurs forces collectives et leur capacité à changer toute la société? Aucun. La perspective de contester le pouvoir des capitalistes ne peut venir que d'un parti qui rejette tout l'ordre bourgeois, d'un parti qui se réfère au mouvement ouvrier, à tout ce passé fait de révoltes, d'insurrections et de révolutions ouvrières. Car la classe ouvrière a un passé de combat. C'est un passé dont les travailleurs peuvent et doivent être fiers et qui leur ouvre des perspectives. La bourgeoisie a tout intérêt à l'ignorer ou à le déformer. Même les partis ouvriers que les travailleurs s'étaient construits ont tourné le dos à ce passé depuis bien longtemps. Eh bien, c'est en reprenant le flambeau du mouvement ouvrier, en reprenant conscience de son rôle et de ses tâches, que la classe ouvrière pourra devenir fière de ce qu'elle représente et de l'avenir qu'elle porte, la capacité de libérer toute la société du capitalisme. Dans cette dernière période marquée par le mouvement des Gilets jaunes, la classe ouvrière ne s'est pas mobilisée en tant que telle. Mais si la mobilisation avait touché les grandes entreprises, si celle-ci avait été paralysée par la grève, c'est la fabrique du profit de la bourgeoisie qui se serait stoppée immédiatement. Et si les travailleurs avaient occupé les usines, c'est la propriété privée de celle-ci qu'ils auraient remise en cause. Ils auraient pu transformer leur bagne de tous les jours en des lieux de discussion et d'organisation démocratique. Ils auraient pu les ouvrir à tous les exploités des alentours, aux ouvriers des petites entreprises, aux retraités, aux chômeurs, à tous ces travailleurs isolés qui s'en seront retrouvés sur les ronds-points. Les entreprises prises en main par les grévistes seraient devenues des pôles de rassemblement, d'organisation et de direction de la lutte pour tous les exploités d'une région. Et tout cela sur une base prolétarienne, c'est-à-dire avec la possibilité d'inverser véritablement le rapport de force avec la bourgeoisie. Cela ne s'est pas fait, mais nous en sommes convaincus, c'est cela qui se fera. Les explosions sociales sont toujours imprévisibles. Aucun parti, aucun syndicat ne peut les déclencher. Ce sont des phénomènes de masse qui leur échappent totalement. Une simple étincelle peut mettre le feu à la plaine, dit le proverbe. Mais personne ne peut prédire quelle étincelle le fera et quand elle le fera. Regardez l'Algérie. En Algérie, le pouvoir de Bouteflika a duré 20 ans. Il a été élu et réélu 4 fois, et la dernière fois alors même qu'il n'était déjà physiquement plus présent. Et la 5e candidature a été la candidature de Trump. Et maintenant, la population a pris conscience de sa force. Il ne suffit plus que Bouteflika soit officiellement écarté du pouvoir. C'est tout le système qui doit dégager, comme ils disent. Alors en Algérie, le combat ne fait que commencer pour les travailleurs. Mais c'est dans ces moments de révolte profonde que les prises de conscience s'accélèrent, que bien des choses deviennent possibles pour les opprimés. C'est entre autres pour ces moments que nous militons, car c'est la seule perspective qui vaille le coup pour les travailleurs. Sociales et plus encore les révolutions sont des événements rares. Dans tous les pays industrialisés, comme dans les pays pauvres, partout où il y a une classe ouvrière, celle-ci a montré à maintes reprises de la combativité, de l'énergie. La grande leçon des révolutions ouvrières du passé, et surtout de celle qui a été l'événement le plus exceptionnel de l'histoire humaine des derniers siècles, la révolution russe du prolétariat de 1917, c'est que la classe ouvrière a besoin d'un parti révolutionnaire. Pour pouvoir aller au bout de son combat, elle a besoin d'un état-major qui sache proposer aux travailleurs et aux masses populaires en mouvement une politique représentant leurs intérêts face aux différentes politiques de tous les partis bourgeois. Tous les mouvements de masse entraînent bien des couches sociales différentes, des ouvriers aux paysans, en passant par les petits, par les patrons, petits ou grands. En Algérie, même une des plus grosses fortunes du pays, un patron milliardaire originaire de Kabylie, Issa Rebrab, a affiché son opposition au pouvoir. Pourtant, ses intérêts et ceux des ouvriers qui l'exploitent sont diamétralement opposés. Alors comment y voir clair? À chaque fois, dans ces mouvements de masse, les travailleurs et les plus pauvres forment le gros des groupes. La masse, c'est eux. Le nombre, c'est eux. Mais en général, ils en sont justement réduits à ce rôle de masse. Ils font masse, mais ce ne sont pas eux qui dirigent. Ce n'est que lorsque la classe ouvrière trouve le chemin de son organisation indépendante qu'elle peut réellement prendre conscience de sa propre force et qu'elle peut parler de sa propre voix. Pour l'aider à s'organiser, à se repérer, il faut un parti. Un tel parti, même faible numériquement au départ d'une période d'explosion sociale, mais ayant une implantation dans les grandes entreprises, peut jouer un rôle décisif. En défendant une politique révolutionnaire, en levant le drapeau du renversement de la bourgeoisie par la classe ouvrière, il peut attirer à lui des pans entiers de la classe ouvrière, mais aussi des membres des autres classes opprimées. Ce n'est que dans ces circonstances qu'il peut devenir un parti de masse, faisant corps avec la classe ouvrière elle-même et lui permettre alors de prendre le pouvoir. À Lutte ouvrière, nous n'avons pas l'illusion ni la prétention de penser que nous sommes le parti révolutionnaire qui permettra à la classe ouvrière de prendre le pouvoir. Ce parti reste à construire. Mais nous pouvons avancer à partir de la petite organisation que nous sommes, en nous efforçant de proposer une politique aux travailleurs, en utilisant tous les moyens à notre disposition pour faire connaître cette politique et pour regrouper le maximum de travailleurs autour d'elle. Et encore une fois, cette campagne électorale et le vote nous en donnent l'occasion. Si aujourd'hui les travailleurs n'ont pas confiance en leur force collective et qu'ils subissent les coups redoublés de la bourgeoisie et de son État, nous avons par contre une confiance inébranlable dans leur capacité à changer la société. Incarner cette perspective politique, la maintenir vivante en y gagnant des jeunes et des travailleurs, est un gage pour l'avenir. Lorsque la classe ouvrière se libérera de la résignation, elle deviendra une puissance irrésistible. Dans une montée ouvrière, dans une montée révolutionnaire, elle a la capacité de tout faire, de s'armer et décomposer l'armée en entraînant les soldats du rang, de renverser la police et la justice, de tout prendre en charge, de s'occuper des sans-abri en réquisitionnant les logements vides, d'organiser des cantines collectives pour nourrir tout le monde, de réorganiser les hôpitaux, les écoles, les transports et la production, non pas en fonction du profit, mais en fonction des besoins de la société. Seule la classe ouvrière peut contrôler les banques et les obliger à accorder les crédits dont ont besoin les petits artisans et les petits commerçants. Elle seule peut empêcher les capitalistes de la grande distribution et de l'industrie agroalimentaire d'étrangler les petits paysans et les fournisseurs. C'est cette capacité d'organiser la société qui en fait la classe révolutionnaire et lui donne les moyens d'apporter de vraies solutions à toutes les autres couches opprimées de la société. Alors tout cela, vous pourrez le dire en votant contre le camp capital pour le camp des travailleurs. Alors aidez-nous dans cette campagne, il reste encore peu de jours d'ici dimanche, mais vous pouvez encore convaincre vos camarades de travail, vos amis, vos voisins, votre famille. Alors, votez, faites voter contre le grand capital pour le camp des travailleurs. Vive la classe ouvrière et vive le communisme.